Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Et voici le thème de notre seconde méditation pour clore cette récollection que nous faisons depuis 17h30. Un titre, la Vierge Marie et le don de soi. Et nous parlons de la Vierge Marie très logiquement, puisque nous sommes en mai, et que, en règle générale, chaque année, nous abordons ce thème à la même époque. Et chaque année, la question revêt une actualité particulière. Cette année, comme chaque année, nous disons, oui, il y a des motifs qui nous invitent à parler de Marie, d'invoquer Marie, parce que le contexte actuel, surtout pour l'Église, nécessite ça. L'Église a fait l'objet de beaucoup de critiques ces derniers temps, de beaucoup d'attaques. Elle est souvent contestée, voire dénigrée. Et en disant ça, nous ne souffrons pas d'un complexe de persécution qui nous ferait voir des attaques partout, pas du tout. Mais c'est une situation pratiquement quotidienne, lorsqu'on y pense bien, depuis que l'Église existe, depuis que notre saint fondateur, Jésus-Christ, eh bien, a fondé son Église, les persécutions. Donc, je crois que l'explication doit être recherchée dans un double fait qui me semble très évident. Le premier fait, c'est, d'une part, les gens confondent habituellement l'Église et ses membres. Et ils imputent à l'Église des erreurs de ses membres, dans une simplification abusive, compréhensible, en même temps. Et nous sommes devant le Saint-Sacrement, nous sommes heureux de dire, non, l'Église, et je le crois et je le confesse maintenant, l'Église a quatre notes, une sainte, catholique et apostolique. Elle est donc sainte, elle est l'épouse du Christ, cette Église. Elle est carrément au-dessus des misères de ses enfants, même si elle les prend en compte pour les corriger. Et c'est exemplaire de voir l'attitude des personnes qui sont à la tête de l'Église pour voir les moyens qui se donnent pour effectivement corriger, enrayer des choses qui ne sont pas admissibles. Et c'est d'ailleurs justement pour cela que le Christ l'a fondé l'Église, pour sanctifier ses membres qui ne sont pas saints. Même si à l'époque, au début, ils s'appelaient des saints, mais appelés à le devenir. Et avec cette vision surnaturelle de voir chez les autres des personnes qui sont prêtes à se donner des moyens pour atteindre la sainteté. C'est très beau. Un peuple de misérables, de pécheurs. Donc d'une part, de ne pas confondre l'Église et ses membres. D'autre part, l'Église fait l'objet d'attaques si souvent de façon pas innocente et de façon mal intentionnée. C'est comme ça. Et je le dis encore sans tomber dans le complexe, c'est pratiquement une évidence, si on sait lire dans l'actualité, qu'il y a des mauvaises intentions. Et ce n'est pas le sujet de notre méditation, donc je le dis un peu rapidement, et je signale seulement le fait, pour relativiser, que ça ne nous attriste pas, que ça nous pousse à prier, bien sûr, et à nous poser la question, comme toujours, et moi, quoi ? N'oubliez jamais que nous ne soyons pas naïfs, pardonne-moi, encore une phrase, mais derrière tout, il y a une volonté bien, bien claire de bâillonner l'Église en la dénigrant. Or, N'oublions jamais ce que le Seigneur a répliqué aux pharisiens le dimanche des rameaux, qui n'est pas si loin que ça quand même. Quelques pharisiens, je cite, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Comme d'habitude, il ne suffit pas de faire le constat et de s'arrêter là. L'important pour un chrétien est de se dire, qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi à l'heure actuelle ? Car derrière l'actualité se cache toujours une volonté de Dieu, un conseil de Dieu, des recommandations, des pistes qu'il faut savoir décrypter. Je pense à un événement récent, l'incendie de Notre-Dame. Eh bien, une dame antillaise me disait quelques petits jours après, le vrai temple de Dieu, c'est notre cœur. Et j'ai béni cette dame. Parce qu'on a fait, on a tiré beaucoup, on a écrit beaucoup d'articles, beaucoup d'essais, beaucoup d'analyses. Mais c'est vrai que la conclusion, c'était toujours la même histoire, c'est mon cœur qui compte. C'est là que je dois construire, reconstruire. Parce que moi, très souvent, il y a des choses qui sont en ruine là, qui sont brûlées, qui sont passées, qui sont démodées, qui risquent gros de s'écrouler. Dieu attend de nous, à l'heure actuelle, un surcroît de fidélité. Nous avons consacré la première méditation à la fidélité. Je reviens pas dessus, 30 minutes ont suffi. Et donc, un nouvel effort dans la sainteté pour chacun d'entre nous. Ça, j'en suis certain que Dieu attend davantage de moi et Dieu attend davantage de prières me concernant. Cette prière qui est l'arme essentielle de notre foi et de toute vraie religion. Tu te rappelles cette phrase du Seigneur qu'il adresse en rapport avec le démon et avec les attaques du démon. Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. On peut l'appliquer à ses attaques, à l'église et tout ça. Et c'est par la prière qu'on peut se débarrasser des mal intentionnés, des personnes malhonnêtes qui en veulent à l'église. C'est curieux quand même. Cette obstination, on a persécuté le Christ, on l'a tué, donc c'est pas étonnant que ceux qui veulent être fidèles soient persécutés aussi. Bien, voilà notre contexte de cette méditation pour cette récollection, pour les semaines à venir, je pense pour les mois à venir aussi, cette fidélité, en pensant à l'été. Et nous allons, dans cette méditation plus concrètement, parler de la Vierge Marie, éducatrice. Je crois que c'est très intéressant, parce qu'on vient d'évoquer des situations parfois un peu moroses, des réalités qui ne sont pas toujours très belles. Et donc, j'ai fait le choix de parler de la joie, la Vierge Marie, mois de mai, et cette joie qui ne devrait jamais nous quitter, s'il est vrai, et qui est toujours liée aussi au don généreux de soi. Donc là, trois réalités. Marie, la vraie joie, le don généreux de soi. C'est ce que je prétends développer dans les minutes qui viennent, dans notre prière. Nous voulons écouter la parole de Dieu, car la vertu de la foi doit être contemplée, nous qui voulons ne pas manquer de foi. Elle doit être contemplée surtout comme une écoute de la parole de Dieu, comme une adhésion à la parole de Dieu, à ce que Dieu a bien voulu nous révéler, nous dicter, nous faire connaître. Il nous a fait connaître ce qu'il a voulu nous faire connaître, ce qu'il a voulu nous révéler. Et la référence pour nous, c'est toujours cette parole de Dieu. Et étant donné que le message n'est pas toujours évident en soi, et que même le message de notre Seigneur Jésus-Christ peut souvent défier notre logique humaine. Combien de fois ça ne colle pas avec notre logique, avec la logique, j'allais dire, du monde. Il n'est pas toujours évident. Tout comme l'intitulé de ce que je viens de rappeler, la joie et le don généreux de soi. Eh bien, pour beaucoup de personnes, c'est contradictoire dans les termes. On n'est pas heureux si on pense pas à soi. Il faut, et on est heureux que lorsqu'on pense à soi, pour beaucoup de personnes. Il n'y a que le bonheur égoïste, pas du tout. On va y arriver dans quelques instants, dans une partie très pratique de notre méditation. Donc ces deux éléments, joie et don, semblent contradictoires pour une logique humaine. Eh bien, nous allons voir la joie d'un côté, et de l'autre côté, quelque chose qui semble de nature à compromettre la joie, se donner aux autres à fond, et source de joie, sans demi-mesure et source de joie, et sans établir des limites préalables et source de joie. Lorsqu'on commence à calculer, c'est fini. On est en train de négocier le don de soi, la charité, ça va pas, il n'y aura pas la vraie joie. Si je prends, par contre, si je prends comme référence les besoins des autres, or les besoins des autres sont souvent nombreux, si je prends cela comme référence, là, je peux atteindre la vraie joie. Seigneur ne permet pas, parce que je veux, on rentre petit à petit dans notre sujet de la joie, je ne veux surtout pas me fixer au préalable une sorte de plafond un peu arbitrairement fixé, finalement pour me protéger. Je dis jusque-là oui et pas au-delà. Eh bien, ce n'est pas l'attitude que Dieu nous demande d'avoir. Pour ceux qui étaient là le mois dernier, dans notre récollection, je rappelle rapidement une chose que je vais appliquer tout de suite à la joie. Mais nous parlions de la confiance, de la foi, et la confiance, nous disions qu'il y avait deux types de confiance. Une qui est spontanée et une qui est réfléchie, raisonnée. La confiance, encore une fois, je dis très rapidement, la confiance spontanée est celle lorsque nous avons tous les atouts en main et que nous nous disons oui, je pense que c'est, je maîtrise ça, j'aurai mon examen parce que je connais tout, donc je fais confiance, je réussirai. Bon, ou bien je regardais la météo, il va pas pleuvoir, pas la peine de prendre le parapluie, je suis sûr de mon coup. Bon, pour dire des choses très évidentes, parce que justement c'est spontané. Mais il y a un second type de confiance qui n'est plus spontanée, mais qui est réfléchie. Et celle-ci, eh bien, cette deuxième espèce de confiance, eh bien, nécessite d'un raisonnement. Et souvent, dans les affaires spirituelles, surnaturelles, cette confiance réfléchie dit, moi, je ne ferai pas ça, mais le Seigneur m'a dit que je peux lui faire confiance, donc j'y vais. Il m'a dit que de ne rien craindre parce qu'il est mon père. Eh bien, je crois que Dieu est mon père et donc j'avance et je crois qu'il me tirera d'affaire. Dans notre foi catholique, on dit ça tout le temps. On a besoin de nous appuyer, de réfléchir parce que spontanément, on a la trouille lorsqu'on n'a pas tous les moyens et puis lorsque... Bien. Par analogie, nous pourrions tout aussi bien dire qu'il y a deux espèces de joie. D'abord, une joie spontané ou naturel, quelle joie lorsque ça se passe bien, je suis content parce que je suis dans un contexte agréable, en bonne compagnie, ça se passe bien, on mange bien, on boit bien, bien. Hein? Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, est-ce que chacun, dans cette joie spontanée, lorsque je suis heureux, tout ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui me donne ça? Mais il n'y a pas que cette joie-là, il y a d'autres types de joie. Et je m'appuie sur deux points du livre « Chemin » de Saint José Maria qui disent simplement, qui décortiquent un petit peu cette joie en la classant en trois catégories. La première, c'est la joie qu'on pourrait dire animale. La joie animale, ta joie ne doit pas être une joie que nous pourrions dire physiologique, d'animal bien portant. Est-ce que moi, c'est cette joie-là que je cherche habituellement? Bien manger, bien bu, comme un chien, comme un chat, comme un animal. Deuxième type de joie, la joie égoïste. Je cite, « Le bonheur relatif et pauvre de l'égoïste qui s'enferme dans sa tour d'ivoire, dans sa carapace. » C'est un deuxième type de joie, de bonheur. Un troisième, là, clairement illicite, la joie illicite, la joie qui accompagne le péché, cette espèce d'euphorie qui suit la faute. On commet un péché, il y a une certaine euphorie, une certaine joie, plaisir. On rentre pas trop dans le détail, on peut pas. Pour ne pas être trop lourd, et puis c'est bon, on a beaucoup réfléchi lors de la première méditation tout à l'heure. Maintenant, un peu plus cool, mais je vous donne quand même, j'ai trouvé quelques 7-8 exemples simples, mais pour que chacun d'entre nous fasse sa petite prière, comme nous sommes en train de faire, sans prétendre établir un catalogue, mais que chacun dise, tiens, est-ce que je m'identifie, est-ce que je retiens des choses qu'il faudrait que j'évite plutôt, ou des choses que je devrais rechercher positivement, parce que c'est pas tout à fait ça. Donc, je dis, il y a une joie, allez, on va mettre des qualificatifs, une joie gourmande, qui est liée au manque de sobriété, lié au repas, aux boissons, bien mangé, bien bu. C'est ce niveau très simple qui nous vient très automatiquement. Est-ce que moi je suis très, très, très accro à cette joie gourmande? Une joie nonchalante, c'est si lié à la paresse. Se lever tard, reporter nos devoirs sans cesse. Il n'y a pas le feu au lac. Et je suis content parce que je repousse les échéances. Est-ce que ma joie est, appelons-la égoïste? Je choisis la meilleure place. À la maison, on peut pas toucher à telle chaise, tel fauteuil parce que c'est monsieur. Et si on y touche, attention. Mon temps, j'ai mon temps à moi, c'est réservé et personne ne vient me déranger parce que... Et là, je suis content lorsque je fais ce qui me plaît et que j'ignore tout ce qui se passe. Et la maison a beau brûler, moi, je bouge pas dans mon truc avec mes musiques et mes histoires. La joie égoïste, tu réfléchis. La joie vindicative. La vengeance. Ce plat qui se mange froid, qui est savoureux, mais malicieux, mauvais, pervers. Est-ce que moi, je concocte parfois des plans? Je me réjouis du malheur, je m'attriste du bonheur de quelqu'un. Très lié. Les nuances, mais il faudrait peut-être s'y arrêter un peu plus, mais ce n'est plus la revanche, la vengeance, mais c'est la joie jalouse. Voilà, la jalousie, on a du mal à la reconnaître, la jalousie. Hein. Et au fond, parfois, j'ai des états d'âme qui ne sont pas très, très nets, parce que, au fond, je suis jaloux, tout simplement. Quelqu'un qui a plus de qualité, qui réussit mieux, qui a une épouse plus belle, une fiancée plus belle, une voiture plus belle, une, je sais pas quoi, des vacances, une tête. Je suis jaloux de la tête du gars, là. Une joie, c'est la dernière, hein, de la liste, c'est bon. Sensuelle, liée au regard impur, au désir impur, aux pensées impures. Et là, c'est sûr que cette joie-là me dit bien, etc. En tout cas, on peut dire, cette petite énumération qu'on vient de faire n'est pas source de vraie joie. C'est spontané, oui, je suis attiré par ça, bien sûr. Ça me vient tout le temps, tous les jours, je dois lutter contre telle ou telle espèce qu'on vient d'énumérer, oui. Mais n'empêche que cette joie spontanée n'est pas la bonne. Je dois m'efforcer de réfléchir un peu et de chercher la joie réfléchie. Je cite, « Joie surnaturelle qui procède de l'abandon de tout et de toi-même dans les bras aimants de Dieu notre Père. Vas-tu perdre pour cette caricature du ciel le bonheur de la gloire qui n'aura pas de fin ?» Et parfois on confond, on se permet des caricatures et on fait pas le vrai choix. Et on adhère à des choses qui sont décevantes. On a tous l'expérience que lorsque j'ai trop bu, je ne suis jamais fier d'avoir trop bu, jamais fier d'avoir trop mangé, jamais fier d'avoir été sensuel et impur, jamais fier d'avoir été jaloux et de me venger de ou d'être égoïste ou d'être paresseux. Jamais Ça ne me donne la vraie joie. Et pourtant, j'ai du mal à réfléchir, à dire, je me pose, je pose ma tête et je vais essayer de raisonner parce qu'un raisonnement semble indispensable. Sinon, je me laisse toujours aller vers la tristesse, la déception, le dégoût de moi-même. Est-ce que je veux aller au ciel? Est-ce que je veux me donner les moyens pour être heureux sur terre? Pour vivre de la vraie joie? Qui demande de faire des efforts, qui demande de faire des sacrifices. Attends, on a vécu la semaine sainte, il n'y a pas si longtemps que ça. On a bien compris comment atteindre la résurrection. Il faut passer par la passion et par la croix. Il faut passer par le sacrifice, par le renoncement, par l'esprit de mortification. Ces mots qui ne sont pas très à la mode. Mais si on veut la vraie joie, il faut se donner les vrais moyens. Et nous aurons toujours besoin d'être éduqués, et d'être formés, et d'être accompagnés, parce que ça peut être plus ou moins clair intellectuellement, théoriquement, mais nous savons très bien, lorsque on est certains d'entre nous dans l'enseignement, et puis, bon, très bien, et puis les gens qui sont mariés savent très bien dans l'éducation des enfants, on a beau expliquer des choses, il y a des choses qui sont comprises, les enfants ont compris, les élèves ont compris, mais de là à les mettre en pratique, c'est très clair dans la théorie, on a compris, mais se décider à le mettre en pratique, c'est pas toujours automatique du tout, c'est pas gagné du tout. Et les parents désespérés parce que l'enfant n'y arrive pas, alors qu'ils se sont donné les moyens, tous les moyens du monde, ils ont claqué tout leur fric pour des écoles privées, et pour je sais pas quoi, et pour fréquenter des bonnes fréquentations, et puis je sais pas quoi, le patronage et le club décide là-bas, et la bonne... Donc une chose c'est le connaître, et l'autre de le mettre en pratique. Donc il faut raisonner, il faut réfléchir, il faut dire, est-ce que je me donne ces moyens-là, que je connais peut-être très bien, ou peut-être que je connais pas si bien que ça, et j'ai besoin d'aller demander conseil pour qu'on me dise, dans ces circonstances particulières, mais de quoi j'aurais besoin? Donnez-moi un conseil, monsieur l'abbé. Et même si on est très âgé, personne n'est âgé ici, moi, on a besoin de conseils, et d'être formé, et d'être un peu accompagné. Et peut-être plus les années passent, plus on a besoin parce que l'orgueil s'installe et on croit qu'on est très expérimenté et qu'on sait tout, qu'on est de retour. Ben, rien du tout, on doit nous dire parce qu'on croit que c'est l'action de Dieu dans notre âme. Et l'intercession de Marie, oui. Je voulais, après avoir dit ces joies avec des qualificatifs un petit peu négatifs, mais qui nous éclairent, hein. Retenez-les pour les éviter. Des choses... positive. Voulez-vous la vraie joie? Je vous donne quelques tuyaux, 5, 6, 7, et le temps, on n'aura pas le temps de faire plus, et c'est déjà pas mal. Est-ce que je suis habituellement prêt? Est-ce que je suis habituellement capable de laisser mes intérêts de côté pour penser aux autres? Est-ce qu'habituellement, en fin de compte, je me limite à satisfaire mes propres attentes sans me donner aux autres? Des conseils positifs. 1. Cherchez à faire des choses, des actions que personne ne verra jamais. Grande source de joie. 2. Faire des choses, faire quelque chose, sans réclamer un merci. 3. Sans m'en vanter. 4. Choisir la plus mauvaise part. Lorsque j'ai le choix, il y a des corvées, il y a une répartition de tâches, je prends la moins agréable. Je me porte volontaire, je dégaine plus vite. Qu'est-ce qu'on est heureux lorsqu'on fait ça? 5. Faire le travail des autres lorsque l'occasion se présente. 6. Faire les tâches des autres ils sont absents, ils sont empêchés peut-être, eh bien je le fais. Sans attendre que, et sans des choses d'ordre, colocation, je sais pas quoi, chacun dans des situations, beaucoup d'entre vous en colocation. Faire. Et c'est fait, voilà, la poubelle a été vidée. Et puis l'évier a été nettoyé. Et la douche, elle est propre. Et le lavabo est propre. Et les choses à leur place. Ne pas exprimer ses préférences. Comme c'est difficile, ça. Parce que souvent, c'est le contraire. On fait la tête, on râle, parce qu'on n'a pas eu son truc préféré. Le cas typique de l'étudiant qui n'est pas à la maison, qui rentre tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, et qui trouve les occasions pour ne jamais être content, il n'est jamais assez servi. Et puis tout le monde se met à genoux parce que le garçon, il est préparationnaire, vous comprenez? Il est dans une prépa, une grande école, vous savez, c'est un demi-dieu, un demi-urge, quoi. Et puis voilà, il a tous les droits. Ridicule. On n'est pas content, même si tout le monde se met à genoux, papa, maman, à leur âge, à genoux devant moi, pour me servir. Ça donne pas la joie, ça. Sinon, c'est qu'on est vraiment perverti dans la tête. Ne pas choisir les repas, ne pas choisir les loisirs, ne pas choisir les programmes, les émissions, le film, le cinéma, la télé. Ça soit les autres qui choisissent. Et moi, je me tais. Et j'essaye. Après coup, peut-être, dis, écoute, peut-être que... Mais voilà, j'essaye, et puis voilà. Enfin, etc. Bon, ça, c'est l'oubli de soi, parce que parfois, on dit, l'oubli de soi, le don de soi-même, l'héroïsme, on pense aux flammes, et on pense à la Chine, et on pense aux des endroits où il y a les terroristes qui se font... Mais non, il faut être martyr là où l'on est, dans les circonstances ordinaires. Il faut trouver la vraie joie dans ce qu'on fait tous les jours. Tout en sans oublier que le don de soi est un don de Dieu. L'oubli de soi, pardon, et le don de soi aussi, n'est pas un remède ascétique, mais c'est un don divin. Il faut demander à Dieu, donne-moi cette capacité de m'oublier moi-même. Parce que là, je vais me transformer radicalement. Mon âme va se transformer, se bonifier, et je serai capable de comprendre les autres, et je serai capable d'aimer, et d'être fidèle, comme on disait dans la méditation précédente. C'est l'une des tâches précisément que le Christ a confiées à la Vierge Marie. Et en ce mois de mai, il nous reste 20 jours, profitons-en. Mais avec, là oui, gourmandise, c'est bon ça. Plus, mieux c'est, plus on a là de la Vierge Marie, de fréquentation, de prière, plus nous allons bien, plus nous serons, parce qu'elle est éducatrice de la joie, elle nous fera comprendre comment nous donner généreusement aux autres, parce qu'on en a besoin. Et puis voilà, et on voit l'attitude de la Vierge Marie dans sa visitation de sa cousine Sainte Élisabeth, heureuse celle qui a cru aux promesses. Et là, et on va croire à l'Église, et on va faire confiance à l'Église, et on va être heureux de servir l'Église, et d'assumer soi-même la part de responsabilité que moi j'ai, parce que lorsque je ne suis pas à la hauteur, moi je blesse l'Église, et je déforme l'Église, et je souille l'Église. Et ma foi sera opérante, et j'agirai sans tout comprendre, parce que très souvent, on ne comprend pas tout, et alors ? Et je suivrai les dogmes de l'Église, la morale de l'Église, et la liturgie de l'Église, et je serai fidèle à Dieu et à ses révélations. C'est payant que d'être fidèle. On est très heureux, on connaît la vraie joie profonde, et la vraie paix profonde. Et on est prêt à se donner. Et on a cet esprit de sacrifice qui consiste à penser aux autres, à se donner aux autres, à trouver son bonheur dans le don aux autres. Oui, c'est la seule manière d'acquérir, d'obtenir la vraie paix, la vraie joie. Très sainte Vierge Marie, cause de notre joie, priez pour nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur,
mon ange gardien, intercédez pour moi.